La surface de l'eau tremblait, vibrait comme une toile de trampoline tendue à l'extrême. Quelque chose remontait des profondeurs, mais cette chose refusait de jaillir à l'air libre. Soudain, une forme circulaire assombrit la surface et un grognement sourd à percer les tympans résonna dans l'air. Jamais aucune jungle n'avait été secouée par un tel écho glaçant, et surtout pas l'entrelac inextricable qui couvrait l'île. Pourtant, le vacarme des groupes électrogènes étouffa le bruit, et l'activité fiévreuse qui régnait autour du plan d'eau se poursuivit comme si de rien n'était. Le campement de la mission scientifique ourlait la bouche d'un cénote, un gigantesque trou d'eau au milieu de la forêt tropicale. L'escarpement de plusieurs mètres qui le ceinturait conférait au site des allures de cratère ennoyé. Juché sur le rebord, à proximité du village de Tente, de puissants projecteurs perçaient la nuit, ne laissant entrevoir de la dépression qu'un lac tranquille aux eaux sombres. En réalité, l'entrée vers une fosse profonde donnant sur un vaste réseau de grottes inexplorées. Une porte vers un monde inconnu. N'importe qui se demanderait ce que la NASA fiche là. L'ingénieur Kenan Jost plantait sa silhouette menue au bord surélevé du cénote, ses pensées entièrement absorbées par l'importance des enjeux. Qui pourrait croire que son équipe testait ici un prototype de drone sous-marin qui explorerait peut-être un jour un satellite de Jupiter. Les sourcils froncés par la concentration, il surveillait la surface comme le lait sur le feu. L'engin aurait déjà dû être revenu. Que faisait-il ? Les risques inhérents à une mission expérimentale n'étaient pas la seule explication à ces traits tirés. Même s'il faisait son maximum pour cacher ses états d'âme à son équipe, les conditions météo lui mettaient les nerfs à vif. Les palmiers dansaient dans le vent, une brise comparée au cyclone qui bourgeonnait plus au nord dans le golfe du Mexique. L'ouragan arriverait en fin de semaine, selon les prévisions. D'ici là, chaque seconde comptait. Et cette panne qui tombait au plus mal. Kenan portait un t-shirt délavé à l'effigie d'E.T. l'extraterrestre. Un vieux souvenir d'adolescence. Une fois par mois, sa mère bourrait de leur sac le coffre de la vieille Datsun avant de filer sur l'autoroute, pied au plancher, la radiocassette braillant des chansons de Prince. Et quand les embruns emplissaient enfin leurs poumons, face à l'horizon infini, tout le reste, l'absence du paternel et les difficultés à joindre les deux bouts, s'envolait. Un vieux souvenir donc, et un costume parfaitement taillé pour l'occasion. L'ingénieur aperçut soudain en contrebas des remous bouillonnants agiter la surface, et le drone sous-marin émergea enfin des flots. Deux plongeurs déjà à l'eau se précipitèrent pour fixer des attaches à ses poignets. L'engin ne tarda pas à se balancer mollement au bout d'un filin actionné par une grue du haut de la falaise. Le drone avait l'allure d'une sphère un peu aplatie, de 2 mètres de diamètre, bardée d'instruments sur sa face inférieure. Il préfigurait les véhicules sous-marins autonomes qui, dans un avenir pas si éloigné, chasseraient la vie dans l'océan d'Europe, l'une des lunes de la planète Jupiter. Il était équipé de 2 propulseurs latéraux qui s'étaient mis à dysfonctionner au bout de quelques minutes seulement. Il s'était bloqué en position descente et seule l'aide de ballons de baudruche gonflés à l'air lui avait sauvé la mise. Le comportement erratique des propulseurs avait causé les remous et les bruits sourds. Une inscription en jaune flanquait la coque. CEDI, pour Search for Exploration and Diving Intelligence. Le sigle comportait un jeu de mots, une allusion au programme international SETI, qui traquait les preuves de l'existence d'intelligence extraterrestre dans les signaux captés par les télescopes. L'acronyme se traduisait de façon plus prosaïque par « Recherche de vie marine dans le système solaire ». Mais pour l'instant, le prototype était conçu pour inspecter et cartographier les fonds inviolés du cénote, quelqu'un à la NASA ayant flairé dans le projet le bon coup de pub, en ces temps de coupes budgétaires généralisées dans l'administration. Kenan s'adressa au technicien qui pilotait la grue chargée de soulever les 2 tonnes. « Ok les gars, allez-y tout doux, vous avez 2 millions de dollars entre vos mains !» Tandis que le drone s'élevait dans les airs, on informa Kenan que les voyants des propulseurs venaient subitement de repasser au vert sur les écrans de contrôle. Comme si la mécanique prenait un malin plaisir à lui jouer des tours. Il poussa un juron ayant horreur des situations où les choses se remettaient à leur place spontanément sans qu'on y touche. Comment voulez-vous ensuite remonter à l'origine du problème ? En contrebas, l'un des plongeurs hurla. « Hé ! Il y a une lumière au fond !» En baissant les yeux, Kenan aperçut un halo jaunâtre dans les profondeurs du lac, à une vingtaine de mètres au jugé. Mais qu'est-ce que ce truc fiche là ? Après 5 secondes, Laura s'évanouit aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Kenan pariait pour la torche d'un plongeur parti se coincer entre les dents d'un requin-tigre. Prédateurs opportunistes, ces bestioles avalaient tout ce qui passait sous leur museau, de vraies poubelles ambulantes. L'ingénieur prit sa décision en un quart de seconde. Au diable le temps perdu en réglage. Ils avaient besoin de mettre à l'épreuve cette bécane. Foncer et ensuite analyser. Voilà sa devise. « Redescendez le drone !» ordonna-t-il. « On va voir ce que c'est !» La grue reposa en douceur le prototype sur l'eau. Les mâchoires qui l'emprisonnaient s'écartèrent, et il amorça aussitôt une nouvelle descente vers les ténèbres, accompagné par les deux plongeurs. Kenan longea la falaise pour rejoindre devant une rangée d'écrans un autre ingénieur, Mickey, un oiseau de nuit qui carburait à la caféine, capable d'avaler une dizaine de noirs bien serrés d'affilée sans se déclencher d'ulcère. « Tu as du signal ?»« Yep, tout marche nickel à présent !» répondit Mickey en mâchouillant un chewing-gum à la nicotine. « Tu crois que ça va tenir ?»« On verra. C'était quoi cette lumière ?»« Aucune idée !» répondit Mickey concentré. « Ça y est, on a atteint la profondeur de tout à l'heure !» L'image tridimensionnelle en fausse couleur du scanner se dessinait au fil des mètres parcourus à la verticale. Elle esquissait les contours de la partie haute de la cavité. Mickey fronça les sourcils. Moins 25 mètres. C'est curieux, je n'ai aucun écho de poisson. Cette cavité est un vrai désert. Impossible. Tu sais comme moi que des passages relient toujours les cénotes à la mer. On est sur un sol truffé de galeries. Il arrive même que des tortues et des requins s'y aventurent. Il y a forcément de la vie là-dessous. Mais le signal restait désespérément plat. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? La caméra captait à nouveau une mystérieuse lumière diffuse et ténue qui montait du fond. L'étrange lueur pulsait, comme animée d'une vie propre. De la bioluminescence ? Suggéra Mickey, intrigué. On étudiera ça sur les images. Bon, on commence les tests ? On a une liste longue comme le bras. Tandis que Mickey s'attelait à la tâche en pianotant sur son clavier, le regard de Kenan ne se détachait pas des palpitations lumineuses, aussi incongrues qu'hypnotiques. Elles ne se succédaient pas à un rythme parfaitement régulier, mais avec un léger décalage variable dans le temps, comme un morse en version lumineuse. « Le clignotement dans l'eau a lancé le programme d'analyse d'intelligence », annonça Mickey. « Et ? Il est à côté de la plaque, regarde !» Une fenêtre en rouge avait surgi avec la mention « Probabilité de signal intelligent, 87%. Qu'est-ce qui te fait penser à un problème ? C'est un logiciel expérimental, tu le sais comme moi, Ken. C'est normal qu'il plante. Kenan n'était pas aussi pessimiste que Mickey. D'accord, c'était la première fois qu'ils implémentaient ce logiciel dans un de leurs programmes de recherche, mais lui-même l'avait déjà mis à l'épreuve. La fonction de ce nouveau logiciel était de traquer des signes d'intelligence dans l'ensemble des données enregistrées. On en avait équipé leur drone au cas où, par le plus grand des hasards, ou une chance miraculeuse, sur Europe, ils tomberaient nez à nez avec une forme de vie évoluée. Sur Europe, ou comme ici, dans les profondeurs d'un cénote. Pas d'accord. Je l'ai testé moi-même sur la communication des singes vervets, avec sa conceptrice, la biologiste Margot Klein. Le pourcentage qu'il renvoie n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais je peux t'assurer qu'il fournit un bon ordre de grandeur. Il donnait combien chez les singes ? 55%. La réponse fit sourire Mickey. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Que le drone a détecté... Sur le langage humain, le résultat de l'algorithme est de 91%. Seuls 4 petits pourcents séparent le langage humain de ce signal. Autrement dit, ce signal provient d'une espèce aussi intelligente que nous.